Quand on m'a proposé cette réflexion, ma première question, ça a été de me dire d'où je vais parler, qui est toujours l'élément pour moi le plus important. Comme ça a été évoqué, je suis psychiatre, mais je suis aussi sexologue. Je dirige l'enseignement de sexologie à la faculté de médecine depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc je me suis dit, c'est qui? C'est le sexologue, c'est le psychiatre, c'est Gérard Rib qui va parler. C'est l'universitaire, c'est le clinicien. Donc j'ai fait une première version qui était une version, je dirais, très universitaire. J'ai essayé de colliger un certain nombre de choses, d'avoir une réflexion qui essaye d'être le plus exhaustive comme on est dans le monde universitaire. Et que du coup j'utiliserai pour mes cours, c'est bien parce que ça c'est fait. Mais je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc je me suis laissé aller plutôt à ma réflexion. Et en me disant, eh ben, plutôt de dire je suis soit l'universitaire, soit le sexologue, soit Gérard Rib, on va faire un mélange de tout. Et on va être dans quelque chose où je vais essayer de laisser aller ma pensée à quelque chose qui synthétise ce que mon expérience clinique, qui commence, vous le voyez, à être ancienne, m'a appris, ce que mes enseignements m'ont appris. Et je me suis posé un certain nombre de questions et je vais vous proposer les réponses que je me suis données à ces questions que je me posais. Alors je vais vous les citer rapidement. Je me suis posé de premières questions, ça a été évoqué. Peut-on partager la jouissance? Peut-on partager sa jouissance? C'était une des premières questions que je me suis posées. Et je les ai volontairement laissées dans l'ordre. Hein, comment elles sont venues? Voilà, comment le fil de ma pensée s'est construit autour de cette idée-là. La deuxième question que je me suis posée, c'est de dire que notre société a largement sexualisé le mot jouissance, mais ce sexuel ne parle-t-il que de sexe? Ou y a-t-il d'autres dimensions dans ce sexuel-là? Troisième question que je me suis posée, c'est le rapport à la jouissance est-il différent chez l'homme et la femme? Y a-t-il quelque chose qui va parler de la différence, quelque chose en termes d'altérité qui peut se poser? Ensuite m'est venue l'interrogation sur le fait, est-ce qu'on peut mourir de jouissance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui parlerait de la mort? Et du coup, la question suivante, ce serait donc, serait-il dangereux de jouir? Y aurait-il une dangerosité à cette jouissance, puisque ça peut poser, on peut s'interroger la question de la mort. Ça a enchaîné pour moi sur l'idée de est-ce qu'on peut jouir de la souffrance? Peut-il y avoir un lien entre deux mots qui paraissent antinomiques, entre jouissance et souffrance, et ça va être abordé dans le prochain séminaire. Une autre question du coup qui m'est venue, c'est est-ce qu'il existerait une forme de une nécessaire, je me suis mis ce terme-là, existerait-il une nécessaire transgression pardon, dans le jouir? Est-ce qu'il y aurait quelque chose là aussi qui parlerait d'une dimension transgressive? Et puis la dernière question que je me suis posée, bien sûr, c'est peut-on jouir de la vie? Est-ce que ça a un sens de dire est-ce qu'on peut jouir de la vie? Donc voilà un peu le cheminement que je vais vous proposer dans mon propos. Et avec lequel j'espère on va pouvoir partager un certain nombre de choses. Et avec cette volonté, j'insiste, hein, de sortir du cadre référentiel, mais plutôt d'être dans le cadre de ma libre pensée vis-à-vis de cette thématique. Donc pour commencer mon propos, je m'étais dit qu'il est des mots qui sont faciles à prononcer, qui sont aisés à prononcer, car on sait qu'ils seront facilement entendus. Se réjouir en est un. C'est un mot facile à prononcer. De quoi se réjouit-on? Ben, on se réjouit de rencontrer quelqu'un, de ce que l'on vit, de ce que l'on projette de vivre. Comme si le fait d'ajouter ré à jouir fait que ce mot difficilement prononçable, qui est jouir, compte tenu de sa connotation, devenait facile, léger et partageable. Je me réjouis donc d'être avec vous. J'imagine votre réaction si j'avais dit je jouis d'être avec vous. Car même si la formulation est correcte, vous pourriez y voir un sous-entendu, vous pourriez le situer dans l'acception qui est communément liée, la sexualité, et en particulier de ce lien entre orgasme et jouissance. Donc j'espère que nous allons partager un orgasme ensemble, en tout cas en termes de pensée. Car orgasme et jouissance sont très souvent confondus. Alors que là, et c'est le clinicien, c'est la partie clinique de moi qui va parler, du sexologue, alors que l'orgasme n'implique pas la jouissance. Pas du tout. Moi, mes patients qui viennent avec des problématiques d'éjaculation précoce, donc de ces hommes qui, pour certains, n'arrivent même pas à avoir une pénétration tant leur éjaculation est rapide, ne jouissent jamais de leur orgasme. Jamais. Au contraire, ils le haient, cet orgasme. Ils le vivent comme un échec. Ils le vivent comme une incapacité. Pourtant, ils ont un orgasme. Mais l'intégration qu'ils en ont n'est pas du niveau de la jouissance. Au contraire. Et d'ailleurs, dans la clinique, c'est souvent quelque chose qui est intéressant, parce que ça va interroger la partenaire sur qu'est-ce qui est en train de vivre mon partenaire. Je vois mon compagnon qui est en train d'avoir un orgasme, donc je le lis en termes de jouissance. Et j'ai du mal à comprendre que pour lui, au contraire, c'est quelque chose qui est une forme, comme je vous disais, d'une haine de soi, parce que je l'entends régulièrement. Je me haïs dans ces moments-là, parce qu'il y a quelque chose que je voulais partager, que je voulais, on va parler de cette notion de partage, que je voulais partager, que je me sens dans l'incapacité de partager. Donc vous voyez, ce premier lien n'est pas si évident du côté déjà masculin. Deuxième élément, si on se situe là aussi sur le plan clinique et du côté féminin, une femme peut très bien avoir un orgasme physiologique, ça marche, sans le percevoir. Quelque chose qui était une forme de séparation entre la physiologie, d'une mécanique qui fonctionne bien, mais par contre quelque chose qui est une non-perception de ce qui est en train de se passer. Je me suis marqué que c'était comme s'il y avait une forme d'annulation dans ce qui était présenté, qui était présenté par son corps, pardon, et pas intégré par son esprit. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et ce deuxième élément, il est souvent extrêmement présent du côté féminin si la rencontre avec l'autre n'a pas eu lieu, ou le partage n'a pas été perçu, où ce qui était attendu comme une relation n'est qu'un acte. Dans la clinique, dans ma clinique, les deux mots sont des mots importants. Relation sexuelle. Le premier mot qui est, c'est relation. Donc c'est en quoi la dimension du sexuel parle aussi d'une dimension de la relation à l'autre, et pas simplement de quelque chose qui est de la relation à soi. Et là aussi, la clinique nous le montre, et comme ça a été évoqué dans la clinique du vieillissement où je travaille beaucoup, on voit tout à fait comment cette dimension de la relation sexuelle prend de plus en plus de place dans un couple qui vieillit. La dimension la plus importante, c'est plus l'acte, c'est la relation. Même s'il est porté par un acte, même s'il est porté par une rencontre des corps, il y a quelque chose qui va parler de la dimension relationnelle. Donc c'est pour ça que je vous disais, hein, si la rencontre avec l'autre n'a pas eu lieu, ou le partage n'a pas été perçu, ce qui était attendu comme une relation n'est qu'un acte, et avec quelque chose qui va casser cette dimension de la jouissance. Je ne dis pas qu'un acte sexuel n'est pas une source de jouissance. Je dis qu'il peut ne pas l'être quand l'attente se situe sur un autre niveau, quand justement la dimension relationnelle attendue n'est pas retrouvée. Par contre, on peut se réjouir, voire jouir, d'un rapport sexuel qui n'est pas forcément dans la tyrannie de l'orgasme. Notre société a créé une tyrannie de l'orgasme. Il faut à tout prix avoir un orgasme, pour, comme s'il faut cocher les bonnes cases, vous savez, hein, un truc, ça c'est fait, il faut aller jusque-là. Et donc, ce que je vous disais, on peut jouir d'un rapport sexuel qui n'est pas forcément dans la tyrannie de l'orgasme, où le chemin est plus important que le but, où le être bien prend la place du bien faire. Combien de patients ou de patientes je vois dans cette question de est-ce que je fais bien les choses ? Mais bien par rapport à quoi ? Par rapport à quelles normes ? Par rapport à quelle représentation ? Vous savez, nous, en tant que cliniciens, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dresser une statue à la presse féminine. Parce que la presse féminine va lancer comme ça un certain nombre de choses qui font qu'on voit arriver un certain nombre de patientes et de patients aussi qui ont lu un truc dans la presse féminine et en disant ben, « moi, je ne me fouette pas tous les jours, est-ce que je suis normal ?» Voilà, parce qu'on peut, voir ce genre de choses. J'exagère, mais à peine. Voilà. Donc de quelque chose qui va parler de cette normation qui ne parle pas de sa normation à soi. Et qui va être au contraire dans quelque chose qui va se mettre en décalage vis-à-vis de soi, et qui va faire que ce qui pourrait être en sens et en cohérence vis-à-vis de soi n'est plus en sens, n'est plus en cohérence vis-à-vis de soi. Donc ça, c'est pour moi un élément extrêmement important. Première question qui est venue après ce préambule. Peut-on partager la jouissance et peut-on partager sa jouissance. Une deuxième question est venue instantanément, c'est quelle part de mise en scène, pour qui et pourquoi ? S'entendre dans sa jouissance favorise sa propre jouissance, comme elle stimule l'autre. Donc il y a quelque chose qui va se boucler vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Il y a du donner à voir, mais aussi du donner à soi, puisqu'on est dans cette double boucle qui vont alimenter la dynamique de la jouissance. Mais il existe peut-être, et je dirais il existe, une zone non partageable dans cette proximité, je vais la révoquer, de la jouissance avec la mort. Ne parle-t-on pas, bien sûr, hein, expression que tout le monde connaît, de petite mort quand on parle d'orgasme, de ce moment où la tension du corps laisse place à l'abandon, où le silence s'installe, où ce qui avait pu être du « deux » à un moment dans ce balai vers le plaisir devient ce retour à soi. Et de comment, justement, la jouissance va poser cette question de ce retour à soi et de quelque chose, peut-être, je vais le redévelopper, en termes de solitude avec soi. Là aussi, cette expression qu'on connaît tous, hein, post-coitum animal triste, ne parle-t-il pas justement de ce retour vers la solitude exacerbé par ce qui a été partagé ? De ce décalage, de cet effondrement de quelque chose entre ce qui était partagé à un moment et qui n'existe plus après. On dit, la science dit, que le plaisir tue le désir. Que quand il y a le plaisir, il y a quelque chose en termes de désir qui va s'effondrer. Justement, que reste-t-il après, si ce n'est ce meurtre perpétré sur cette tension qui allait vers l'autre, sur ce mouvement qui pouvait révéler soi de l'unique pulsion, où l'autre n'était qu'un support d'assouvissement de cette dernière, mais qui pouvait aussi parler d'une rencontre avec l'autre, de cet impossible retour vers le « un », vers cette unité qui est juste entreaperçue mais qui échappe instantanément. De quelque chose qui reparle de cette dimension de la fusion, de cette recherche de ce moment de fusion mais qui échappe et qui laisse au contraire derrière cette sensation qui peut être un immense vide et qui peut pour moi interroger toute la question de ce lien avec la mort. Deuxième question. Notre société a largement sexualisé le mot jouissance, mais ce sexuel ne parle-t-il que de sexe ? Dans une époque, dans notre société, où l'intime cohabite avec ce que Tisseron appelle, il l'avait repris à Lacan, mais il a changé un peu l'idée, donc dans ce que Serge Tisseron appelle l'extime, cette société du dévoilé, cette société du montré. Que reste-t-il du non dévoilé, du caché, de l'intériorité, de cette zone non partageable de l'intime ? Pour être intime avec les autres, il faut commencer par être intime avec soi, disait mon ami et collègue psychiatre et sexologue Willy Pasini. Donc il y a cette intimité avec soi-même qui va pouvoir permettre cette éventuelle intimité avec l'autre. La jouissance ne prend-elle pas ses racines dans cette zone de l'intimité avec soi-même, dans cette intériorité, dans cette réaction en chaîne qui, telle une explosion atomique, va faire cette déflagration qui ne sera pas déstructuration, mais au contraire renforcement de soi. Et c'est peut-être un des paradoxes dans lequel on va se trouver autour de la jouissance, dans ce mouvement en même temps de déflagration et en même temps de quelque chose qui est une forme d'intense concentration de soi. Ne doit-on pas penser différents niveaux justement de jouissance, faisant de cet état une zone à cheval sur la frontière du partageable et du non partageable, mais qui va donner d'autant plus de force à ce terme qu'il parle à la fois des zones les plus cachées de son être et du bonheur de pouvoir éventuellement partager ce qui est partageable. Ce moment qui échappe au contrôle, dans la jouissance, il y a quelque chose qui pose la question du contrôle, est un moment de fragilité sous le regard de l'autre. Un moment d'abandon qui peut faire peur. Une difficulté, et là aussi c'est la clinique qui nous le montre, une difficulté, une impossibilité à la jouissance, va poser la question du contrôle, de la difficulté au lâcher prise, voire de l'impossibilité à aller vers l'inconnu de soi. Quand le contrôle échappe, le lien peut se faire avec l'extase, qui, comme vous le savez, qui désigne cet état d'être en dehors de soi-même, où l'individu se ressent comme transporté hors de lui-même, où le vécu de plénitude peut être éventuellement contemplé, offert à un tiers. Et c'est peut-être là, comme je voulais évoquer, ce paradoxe de la jouissance, qui va parler en même temps de cette nécessité du non partageable et de ce temps qui est aussi partagé, de cette explosion qui va être aussi une implosion vis-à-vis de soi. Donc dans cette lecture complexe de la jouissance en termes sexuels, on peut s'interroger sur deux dimensions. Comme je viens de l'évoquer, d'un côté le jouir éclatement, dans une forme de dissolution de soi, de ce retour à cette unité, c'est ce que je vous disais autour du 1, donc de retour à cette unité primordiale, ou à l'opposé, jouir concentration de soi, retour à son unité primordiale, non pas à cette unité primordiale de l'autre, je ne m'avancerai pas sur les terrains de la philosophie parce que je ne me sens pas armé en la matière, mais de cette androgyna primordiale, de cette dimension de l'androgyna primordiale, donc qui parle de l'autre aussi, de comment l'autre est en soi et comment l'autre peut être séparé de soi, mais aussi de ce retour à son unité, de ce lien premier avec soi. Et dans ce lien que nous évoquions avec la mort, ne peut-on pas voir dans cet instant de jouissance justement cette solitude du dernier instant de la vie? Alors, autre question, le rapport de la jouissance est-il différent chez l'homme et la femme? Du côté du féminin, le rapport au plaisir est différent et beaucoup d'auteurs, et j'y participe, disent que la dynamique du féminin serait naturellement plus axée sur la question de la jouissance et que cette notion de plaisir serait plus difficilement dissociable, comme je l'avais déjà un peu évoqué, du climat sensuel et affectif de la relation sexuelle. C'est cette dimension sensuelle, cette dimension affective, qui va être cette dimension de la jouissance, dans cette idée de quelque chose qui va relier plein de choses, relier justement la relation à l'autre et relier la relation à soi. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Gérard Leleu, qui dit « Si une femme ne connaît pas l'orgasme au cours du rapport, mais que la relation a été vécue comme sensuellement et émotionnellement gratifiante, elle ne sera pas ressentie comme un échec, mais au contraire pourra signer une jouissance. » Qu'est-ce qui se passe dans la rencontre? Qu'est-ce qui fait que ce climat que j'évoquais de sensualité, d'affection, va se construire? Contrairement à une grande majorité d'hommes, pour qui éjaculation et orgasme restent une finalité et l'expression d'un rapport sexuel réussi. L'homme, par son éjaculation, se voit jouir, ce qui est très différent du côté féminin, sauf une exception, je vais en parler juste après. Dans cette expulsion, sauf comme on l'a évoqué dans le cas de personnes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, il marque sa jouissance, il la valide. Donc, comme je reprends la phrase, l'homme par son éjaculation se voit jouir, dans cette expulsion, il marque sa jouissance, il la valide. Du côté féminin, mis à part ce qu'on appelle justement les femmes fontaines, où il y a une sorte d'éjaculation au moment de l'orgasme, cela renvoie à l'intériorité. Cela renvoie au contraire à ce qui se contracte, à ce qui se referme, à ce qui se rassemble. Alors qu'on serait plus dans une dynamique d'extériorité chez l'homme. Si on peut compter les orgasmes ou comparer leur intensité, la jouissance, elle, est subjective. Elle parle d'abandon, elle parle d'émotion, elle parle de capacité à se laisser aller à soi, à l'autre, à ses fantasmes, à ses sens. La magie de la jouissance réside, pour les hommes comme pour les femmes, dans l'incessante fluctuation entre désir et plaisir, à cette imprévisibilité d'intensité de sensation. Question suivante. Peut-on mourir de jouissance? Donc là, je vais faire appel à mes connaissances en termes de médecin et à mes connaissances de neuroanatomie. Vous verrez, je vous en ai mis que quelques mots. Le circuit de la récompense, on a ce qu'on appelle le circuit de la récompense, est au cœur de notre activité mentale et oriente tous nos comportements. Ce circuit est complexe, mais il comporte un maillon central qui semble jouer un rôle fondamental. Il s'agit des connexions nerveuses qui relient deux petits groupes de neurones particuliers. Je vous le cite, mais peu importe. Donc, l'un est situé dans ce qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale et l'autre dans le noyau accumbens. Ces deux zones qui vont être en relation. Le messager chimique qui assure la connexion entre ces neurones est la dopamine. Et c'est à cet endroit que la plupart des drogues agissent et produisent une dépendance, en agissant sur la dopamine. Ce neurotransmetteur, il va permettre de renforcer les comportements qui nous apportent du plaisir. Deux secondes de neurobiologie et de l'orgasme. Pendant un orgasme, donc, il y a un premier shoot qui est un shoot à la dopamine, donc qui va activer nos circuits de la récompense. Le deuxième shoot, et d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant, et même nos collègues anthropologues s'interrogent sur la présence de ce deuxième shoot, c'est un shoot à l'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est l'hormone qui est sécrétée dans le lait maternel et qui va favoriser les mécanismes d'attachement. Vous savez, depuis les travaux de Bowlby, on connaît l'importance de la construction de ces mécanismes d'attachement. Donc, dans un orgasme, il y a une sécrétion d'ocytocine. Donc, mesdames, messieurs, si vous voulez attacher vos partenaires, tirez-en peut-être la conclusion. Je mettrai des points de suspension, parce qu'il n'y a pas que ça qui fait l'attachement. Voilà. Mais en tout cas, il y a ça aussi. Donc, ça participe à cette dynamique autour de cette sécrétion de l'ocytocine. Donc, ce que je disais, ce neurotransmetteur va permettre de renforcer les comportements qui nous apportent du plaisir. Et par exemple, le rat à qui l'on fournit de l'héroïne va appuyer sur la pédale d'injection de plus en plus souvent pour y avoir accès. Ces doses de récompense de plus en plus élevées vont entraîner des comportements compulsifs chez l'animal qui peut le conduire jusqu'à la mort. Quelque chose où il ne va être que dans la boucle de son circuit de récompense et aller jusqu'à la mort. Bon, je vous l'accorde, on n'est pas des rats, mais en tout cas, nous partageons avec eux ce système de récompense. Nous partageons avec eux ce système de récompense qui peut pour certains devenir un système de dépendance et les entraîner vers la déchéance et la mort. Cela pose donc la question de l'addiction, de cette recherche de ce moment qui fuit de plus en plus rapidement, de plus en plus loin, et qui laisse de plus en plus de place à la souffrance et au manque. Et là aussi, on peut se poser de nouveau la question de ce lien entre la jouissance, la souffrance et le manque, mais comme je vous l'ai évoqué, peut-être ce manque fondamental de ce vide qu'il peut y avoir après le moment de jouissance. Donc serait-il dangereux de jouir ? Je dirais oui. Si cela devient un but en soi, mobilisant toutes les énergies et empêchant de recueillir ce qui est, je dirais oui dans ce déséquilibre physiologique qu'entraînent les mécanismes addictifs. Je dirais oui dans ce repli sur soi, dans cet abandon du plaisir d'être avec un autre, dans cet enfermement où plus rien d'autre n'existe. Notre société, et on peut dire l'ensemble des sociétés, ont codifié le cadre et ont cadré le sexuel et par là même le jouir. Vous savez que le mécanisme de la perte de l'œstrus, donc de ces périodes de fécondité très ciblées dans les espèces animales, donc la perte de l'œstrus dans l'espèce humaine, la potentialité d'une sexualité toujours présente, a nécessité, nous disent les anthropologues, son encadrement. Certains y voient même l'essence de l'hominisation par ce qu'ils appellent l'échange des femelles et la nécessité du langage. Donc cela va pouvoir, moi, reposer une autre question que je vais évoquer un peu plus loin, de la nécessité d'humaniser son jouir, de le mettre dans une dimension de l'humain et de l'humanité. Donc peut-on jouir de la souffrance ? Oui. Et cela va poser bien sûr la question des mécanismes pervers, de cette transformation en objet de l'autre, de cette jouissance au contrôle de l'autre. Certains diraient de ce manque d'empathie. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, je participe à l'école vétérinaire, en particulier à Lyon, et puis dans d'autres établissements vétérinaires, à des enseignements pour ce qu'ils appellent les vétérinaires comportementalistes. Donc ils m'ont beaucoup appris. Et depuis maintenant 3 ans, nous avons créé à Lyon 1, ouvert d'ailleurs aux vétérinaires et aux non-vétérinaires, un DU de psychiatrie animale, un diplôme de psychiatrie animale, interrogeant justement un certain nombre de choses par rapport à la psychopathologie que peuvent avoir les animaux. Donc ils m'ont beaucoup appris et je les avais interrogés d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans mon propos parce que c'était, je ne me retrouvais pas complètement, mais j'avais, quand on s'était rencontrés, je m'étais posé la question de, est-ce que les animaux peuvent jouir ? Une bonne question. Donc j'ai eu des réponses, mais bon, éventuellement on en parlera tout à l'heure, mais c'était intéressant. Donc je vais revenir à cette question autour de l'empathie. On dirait que c'est un manque d'empathie. Et mes amis vétérinaires, ils m'ont appris quelque chose, c'est que pour eux, le meilleur exemple de l'empathie dans le monde animal serait le lion qui poursuit la gazelle. Hein ? Quand même surprenant, ça. Ils nous disent comment le lion doit se penser gazelle pour pouvoir manger la gazelle. Ça, c'est intéressant. Et justement, il délie la notion d'empathie de la notion de compassion. Et en rendant, à mon avis, la réalité du terme de l'empathie, qui est la capacité à penser l'univers de l'autre. À penser l'univers de l'autre. Mais pas forcément avec compassion. Et penser l'univers de l'autre, c'est le propre du pervers. Les pervers sont des champions de la capacité à penser l'univers de l'autre. Ils savent où ils vont aller, ils savent où ils vont toucher, ils savent ce qu'il faut faire. C'est donc jouir de sa puissance, c'est jouir de son emprise. Un jour, un patient me disait, je suis un vampire qui suce petit à petit le sang de l'autre. Mon plaisir, c'est que ça dure. Ma jouissance, c'est le moment où je vois dans le regard de l'autre qu'il a compris, mais qu'il ne peut plus rien faire. Phrase terrible. Mais qui parle de jouissance ? qui parle de cette jouissance d'avoir intégré l'autre. Et je trouve que c'est intéressant, ce côté de vampire qu'il évoquait. Quoi. Ça y est, il l'a intégré, l'autre ne peut plus partir. C'est même plus que les liens, la cage est fermée, quoi, et voilà, il y a quelque chose. Et de voir que l'autre sait que c'est fini, mais que partir devient quelque chose de très complexe. On le sait, hein. La clinique nous le montre très, 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 très fréquemment, de comment sortir des raies d'un pervers. Donc le pervers, pour éviter tout conflit interne, et pour ne pas se confronter à lui-même, à ses angoisses terrifiantes, donc le pervers ne peut envisager autrui comme une personne entière. C'est un des éléments du pervers qui va objectiver en différentes parties l'autre. Il va donc utiliser les autres comme des ustensiles, comme une collection d'objets absolument interchangeables. Mais c'est aussi de sa propre souffrance, de sa propre souffrance une jouissance. C'est l'alimenter, c'est faire de la plainte son étendard. Je ne parle bien sûr pas de ce qui fait traumatisme, ni de ce raccourci trop souvent emprunté entre un type de personnalité et les somatisations, mais par contre de ce qui emprisonne, de ce qui projette sur l'autre, de ce qui fait, comme le disait mon ami François Roustan, qui fait qu'une personne ne jouit plus de l'existence tant elle jouit de sa plainte. Et comment il y a quelque chose à ce moment-là qui va s'enfermer dans la jouissance de cette plainte. Existerait-il une nécessaire transgression dans le jouir? Donc je vous disais que la société a encadré le sexuel, donc face à cet encadrement de la société, se situer sur, voire hors limite, ne participe-t-il pas à cette jouissance? Et tout de suite, il y a une liaison qui s'est faite pour moi. La sexualité, espace de transgression à l'adolescence, est de moins en moins présente. Ce temps de développement a besoin de se confronter, de s'affirmer dans sa différence. Ce qu'on appelle les petits couples, acceptés voire encouragés par les parents, ce qui pose la question du contrôle de l'espace privé des enfants par les parents, ne déplace-t-il pas ce besoin de transgression? Ne fait-il pas, si j'ose dire, le lit à cette dimension où la jouissance peut accrocher des zones à risque de la personne si elle percute des fragilités? Humaniser sa jouissance, je vous disais, fait partie du développement de l'humain. Face à la pulsion qui nécessite son assouvissement, comment l'autre va-t-il rester sujet et ne pas être réduit comme support de la jouissance? Cela, pour moi, ne parle pas que de règles sociales, mais aussi de lois humaines, où l'autre n'est pas un objet de sa jouissance, mais un sujet entendu dans son altérité et dans sa dignité. Pour terminer, peut-on jouir de la vie? Voilà peut-être un lien intéressant entre l'instantanéité, comme je l'ai évoqué, de la jouissance, et le fait d'être dans l'instant. Il est souvent difficile d'être dans l'instant qui, par définition, ne dure pas, en tout cas dans notre vision d'un temps linéaire face plutôt au temps circulaire d'autres civilisations. Donc il est souvent difficile d'être dans l'instant qui, par définition, ne dure pas, tant notre existence est prise entre passé et futur, tant notre pensée est envahie par ce qui fut et l'interrogation de ce qui sera. Un de mes vieux amis reprend à l'encan cette phrase de Jacques Faizan, « Le bonheur est un festin de miettes ». Mais faut-il prendre le temps de voir les miettes, de les apprécier dans l'ici et maintenant? C'est aussi, bien sûr, cette potentialité à intégrer les événements difficiles de l'existence pour continuer à se construire. Elle parle de cette dynamique de l'humain qu'est la résilience. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est émaillée de pertes, de deuil, d'abandon, de souffrance, qui peuvent détruire ou construire. Le lien peut se faire ici avec le bien-être, ou même plutôt l'être bien, qui va parler de subjectivité, qui va parler de la manière de lire, de relier son existence pour en construire sa cohérence, pour percevoir ses moments de plénitude dans le quotidien. Alors peut-on voir le bien-être, l'être bien, comme une forme amoindrie de la jouissance ? ou au contraire comme une résultante, passant de l'instant à la continuité et installant la réjouissance comme une remémoration d'un potentiel futur. J'associe là sur, à l'instant, dans les travaux auxquels je participe autour de la maladie d'Alzheimer, certains de mes collègues, et je trouve ça très intéressant, ils parlent de la construction de la mémoire du futur, qui est un élément extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je fais ce lien à l'instant là, entre la réjouissance, là aussi, comme je dirais, comme une remémoration et un potentiel futur, et peut-être une construction de la mémoire du futur. Je vais faire un lien surprenant et revenir à ma pratique de sexologue. Nous voyons en consultation des patientes qui viennent car elles se plaignent de ne pas avoir le bon orgasme. C'est assez fréquent. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'orgasme de jouissance, mais qu'il ne correspond pas à ce qu'il devrait être. La première pensée pour un non-professionnel peut être ironique. Pour un professionnel, elle va poser la question du manque, du sentiment d'incomplétude, de ce qui n'advient jamais, de la recherche d'un toujours plus, qui illustre bien souvent d'autres souffrances et d'autres manques. Pour moi, cela peut se lire comme une illustration de notre société, en posant plusieurs questions. Tout d'abord, celle de la performance, du toujours plus, du jamais assez. Mais aussi de ce monde d'insatisfaction, d'attentes non réalisables. Enfin, pour moi, cela pose la question de l'autre, de celui qui ne peut pas donner cette jouissance, faisant de l'autre le responsable de ce qui n'advient pas. Je ne sais plus qui disait, mais je l'utilise beaucoup, parce que c'est une phrase qui, pour moi, m'avait beaucoup marqué la première fois où je l'ai entendue. Ne te demande pas ce que l'on a fait de toi, mais demande-toi ce que tu as fait de ce que l'on a fait de toi. Je la répète, parce que je la trouve très importante. Ne te demande pas ce que l'on a fait de toi, mais demande-toi ce que tu as fait de ce que l'on a fait de toi. Nous sommes responsables de notre jouissance, qu'elle soit sexuelle ou liée à la vie. Nous avons des blessures, nous avons des failles. Pour certains, elles seront des gouffres difficiles, voire parfois impossibles à combler. Pour une immense majorité, elles pourront être intégrées dans le continuum de son existence, dans une acceptation sans concession de ses limites, de sa propre réalité. Dans une conclusion, donc je vais conclure, dans une conclusion un peu laconique, je dirais qu'il y aurait donc dans la jouissance cette capacité à prendre ce qui est, à accepter que tout ne soit pas toujours au top, mais que ce soit en harmonie avec soi et si possible avec les autres. Je vous remercie.